Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Il y a un sujet qui peut paraître simple, voire léger, et c'est la galanterie. Et en fait, en écoutant France Inter, j'ai entendu une rubrique sur un bouquin qui était sorti sur la galanterie, fait par un sociologue, historien. Et je me suis dit que ça valait vraiment le coup de rentrer dans le détail de ce qu'est la galanterie, parce que ça fait débat, que tout le monde en parle sans vraiment maîtriser ce terme. Et donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec Alain Viala. Donc, c'est un épisode qui dure une trentaine de minutes, qui va vous permettre de mieux comprendre sur les 400 dernières années comment ce concept, ce mythe s'est construit, comment il s'est développé au fur et à mesure des années. Et vous verrez que c'est pas du tout linéaire. Une conversation dense, mais en même temps très intéressante. Donc, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour Alain Viala.
Bonjour.
Donc vous êtes historien et sociologue.
Et littéraire.
Et littéraire. Sociologue de la littérature d'ailleurs, si je ne me trompe pas.
Oui, entre autres, oui.
Et vous venez d'écrire un livre sur la galanterie. La galanterie qui est un sujet qui fait débat depuis 400 ans.
Ouais.
Pourquoi avoir choisi d'écrire un bouquin sur ce sujet-là en particulier?
C'est une longue vieille histoire.
Ouais.
Ça fait des années et des années. Alors ça a commencé comme ça, comme le littéraire que je suis s'est posé des questions parce que je suis notamment spécialiste de Racine et du XVIIe siècle et j'ai été comme tout le monde de ma génération formé à l'idée que le XVIIe siècle c'était le siècle classique. Et je me suis aperçu que le mot classique n'est jamais employé à cette époque-là. Par contre, qu'il y avait des foules de gens qui disaient qu'ils étaient galants ou qui trouvaient que tel ou tel auteur, tel ou tel comportement ou tel tableau était galant. Donc il y avait plein de galants et jamais de classique. Je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait recouvrir. Et puis, ça a commencé comme ça en 89. Donc ça fait effectivement une très longue histoire pour moi. Mais il fallait bien cette longue histoire pour avoir le temps de passer en revue 400 ans. 400 ans de débat, parce que c'est un mot qui, dès le début, est un mot qui fait l'objet de conflits.
Et alors justement, je crois que on a du mal à définir ce que c'est que la galanterie. Souvent, on le confond avec de la politesse. Souvent, c'est lié à la relation amoureuse. C'est aussi un courant artistique, donc en fait c'est un peu tout ça, ce que vous expliquez dans votre livre. Est-ce que vous avez une manière de définir ce que c'est que la galanterie?
Un style qu'on trouve dans la politesse, qu'on trouve dans des pratiques artistiques et qu'on trouve dans une part de la morale amoureuse. Un style, donc une manière de faire. Et un style qui concerne avant tout, là je vais parler en sociologue, des choses du loisir.
D'accord.
La galanterie, ça s'exerce pas d'abord dans les activités militaires, professionnelles, religieuses, juridiques. Ça s'exerce dans la sociabilité. Donc, voilà, on peut dire que c'est un style de sociabilité, mais je fais attention de pas dire quel style. Puisque c'est un objet qui a fait débat pendant très longtemps. Si on pose une définition d'emblée, on installe un dogme à ce sujet, alors que ce qui m'intéressait, c'est que ça soit un objet de débat.
Oui, parce qu'en fait, dans votre livre, vous ne prenez pas position. En fait, vous essayez d'ouvrir au possible, de permettre aux personnes de s'approprier finalement ce concept.
Moi, je suis un chercheur. J'ai essayé de faire un livre qui soit conforme à la déontologie du chercheur. Si le chercheur a une opinion préétablie, bah, il cherche plus. Il ne trouve que ce qu'il a déjà dans la tête. Donc, en posture de chercheur et en même temps respectueux du statut qui est le nôtre, on nous paie pour faire de la recherche, c'est une chance. Mais il faut que ça soit utile à la collectivité. La collectivité, des propositions d'opinion, elle en a des montagnes sans arrêt. En revanche, donner de l'information, c'est peut-être un travail qui justifie cette utilité pour la collectivité. Et puis, c'était amusant aussi, en partie pour moi, de travailler sur, de façon aussi méthodique et rigoureuse que possible, sur ce qui apparaît d'emblée comme un petit sujet. Alors, je dis, la galanterie, c'est quoi? C'est tenir la porte quand on est un monsieur bien élevé pour laisser passer les dames. C'est faire des compliments un peu dragueurs peut-être aux dames. C'est un style de peinture à la Watteau. C'est un opéra de Lully ou de Rameau. Mais ça reste des petits sujets. Ça n'est pas la famine, ça n'est pas les épidémies, ça n'est pas le changement climatique, ça n'est pas la façon dont le capitalisme ravage le monde aujourd'hui. Donc ça semblait un petit sujet et je me suis dit, mais est-ce que ça vaut la peine de tricoter et détricoter ce petit sujet?
Et alors pourquoi ça fait débat et pourquoi, dans ce que vous dites, c'est que ça a des enjeux sociétaux, culturels et politiques? Enfin, si c'est un petit sujet, pourquoi ça fait autant débat? Pourquoi aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que c'est du sexisme bienveillant, par exemple, ou...
Et du sexisme malveillant, peut-être
malveillant,
aussi.
Bien sûr.
Pourquoi ça fait débat? Parce que ça a fait débat dès le début, d'une part, et d'autre part, parce que ça a pris une tournure particulière dans le cas de la France. On peut dire qu'il y a ces deux paramètres à la fois. D'une part, dès le début, historiquement, il y a eu deux facteurs qui sont entrés en ligne de compte. On fait 2 minutes d'histoire pour caler les choses. Ouais. Alors, il y a de très longues traditions, évidemment, en matière de politesse, en matière de relations amoureuses, de relations entre les sexes plus largement, et en matière de style artistique. Mais avec un héritage en Europe qui est celui de la courtoisie au Moyen-Âge, il s'est passé quelque chose vers le milieu du XVIIe siècle. Milieu du XVIIe siècle, d'un moment où la France a vécu une longue période de guerre de religion. La France et l'Europe, mais spécialement la France, qui à cette époque est la plus grande puissance d'Occident. Et le pays a besoin de se réorganiser, l'État a besoin de se réorganiser, les élites religieuses ont été embarquées dans les guerres de religion, les élites aristocratiques se sont rebellées, restent donc des nouvelles élites à inventer. Et il y a un bouillonnement de gens instruits dans la bourgeoisie, dans la petite noblesse, qui sont en voie de promotion sociale. Ce sont des gens instruits, donc ils cherchent un style qui soit celui des gens qui ont de la culture, de l'instruction. Il y en a plusieurs possibles, mais ils en cherchent un. Et en même temps, se produit à ce moment-là, en France notamment, un mouvement de revendication de droit à la parole pour et par les femmes.